Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va voir comment finalement un parcours de vie bascule lorsqu'on décide de revenir dans son pays d'origine pour créer davantage de valeur pour toute une communauté féminine. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Et Hakima Farah, bonjour. Merci beaucoup
bonjour,
d'être ma
Yasmine.
Femme d'aujourd'hui. Je remercie Lala Hakima.
Très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Merci pour l'invitation.
Alors, Lala Hakima, toi, tu fais partie de cette troisième génération de femmes de la diaspora marocaine en France, mais tu as choisi de revenir au Maroc, c'est bien ça?
Alors exactement, je suis issue de la troisième génération des Marocains résidant en France. Je suis née en Champagne-Ardenne, j'ai grandi en France, j'ai fait toute ma scolarité du coup en France, puis aux États-Unis. Et je suis rentrée pour vivre définitivement au Maroc il y a bientôt 9 ans,
okay.
Donc 8 ans et demi.
Donc bien avant la nouvelle vague en fait de retour.
Voilà, j'étais un peu une des premières en 2017, ça commençait tout juste
okay.
D'émerger.
Et qu'est-ce qui t'a poussée à revenir? Ou plutôt à venir, parce que finalement, en réalité... tu n'es jamais partie puisque tu es née là-bas, tu fais partie de cette troisième génération, donc grands-parents, parents et toi-même. Qu'est-ce qui t'a poussée à venir au pays d'origine de ta famille?
Ça a toujours été un projet qui tournait dans ma tête. Et à la fin de mes études, quand j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler à Paris. Mais il y avait toujours cette envie de rentrer, faire quelque chose au Maroc. Donc en 2015, j'ai commencé à réfléchir à tout ça, à essayer de mettre en place tout ça, mais la logistique était un peu compliquée. Au final, j'ai rencontré mon mari, qui m'a facilité du coup les choses, parce qu'il était installé sur Casablanca, et je l'ai naturellement suivi, et on a fondé notre foyer ici au Maroc, à Casablanca.
Alors justement, entre l'envie de revenir, de venir et l'installation, est-ce que justement c'était ce que tu t'imaginais?
Sincèrement, j'ai jamais été vraiment déconnectée du Maroc. Mmh. Dans le sens où quand on garde un lien très fort, que ce soit avec la langue, اللغه العربيه والمغربيه كنت مصره اني نتعلم ليها وكنعتز بالمغربي ديالي depuis toujours du coup c'était vraiment naturel et il y a pas eu de gros chocs entre voilà ce que je voyais que les étés et les vacances et mon installation définitive ici.
Alors, tu dis qu'il y a deux choses finalement qui t'ont fait sortir de ta fameuse zone de confort. C'est le décès de ta maman, à l'âge de 21 ans pour toi, un âge important, mmh. Et la dépression postpartum après ton troisième enfant. Alors, quand tu dis « j'étais dans une zone de confort et j'en suis sortie déjà à l'âge de 21 ans », c'était quoi cette zone de confort?
À l'âge de 21 ans, Yasmine, c'est vraiment l'âge de la construction de soi. Mmh. Donc, c'est là où vraiment on ouvre les yeux sur le monde et on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie. Donc, du coup, c'était vraiment un choc. C'était vraiment un gros choc. C'est le drame de ma vie, comme je le dis toujours, comme on était vraiment très proches avec ma mère. C'était vraiment malqa masiri masirha. Hada, bien sûr, ghalat. Donc, ce qu'on a, c'est que je pouvais très facilement tomber dans le piège de m'apitoyer sur mon sort. Pourquoi moi? Mes amis ont encore leur maman et moi non. Voilà. En plus, elle ne m'a pas vue rosa, c'est quelque chose de sacré chez nous, etc. Donc, je pouvais facilement m'apitoyer sur mon sort et tomber dans ce piège-là. Grâce à mes frères et à mon père, je ne suis pas tombée dans ce piège. Et je me suis dit non, il faut absolument que je continue mes études parce que j'avais même l'idée d'arrêter totalement mes études. Je me suis dit non, Grâce à leur soutien, j'ai pu continuer mes études, donc en France puis aux États-Unis, donc c'est quelque chose que j'aime. Et voilà, continuer mon petit parcours de vie avec mes activités parascolaires, puis le travail, etc.
Tu n'étais pas encore mariée à 21 ans?
Non, je n'étais pas encore mariée du
non,
tout.
Non, non. Donc, c'était un deuil qui était compliqué, c'est ça?
C'est un deuil très compliqué que j'ai eu beaucoup de mal à faire, en fait, tout simplement. J'ai fait appel à différents soutiens pour pouvoir le faire facilement, parce que je refusais totalement l'idée de perdre ma mère. Et en fait, voilà, la spiritualité aussi aide beaucoup, les lectures, la psychothérapie, etc. Donc ça m'a beaucoup aidée à voir les choses autrement, et que voilà, faut penser aussi comment, si notre vie était un livre ou un film, comment on voudrait qu'il s'appelle, en fait, tout simplement. Donc, si c'est tristesse, sacrifice, désarroi, personne ne voudra le voir. Alors que si, épreuve, et on se relève des épreuves, et on continue et on fait quelque chose de bien, c'est largement plus intéressant.
C'est ça, en fait, ta première leçon apprise de cette expérience de la vie, une expérience très douloureuse par sa maman à 21 ans. Et si j'ai bien compris, tu es la seule fille de la fratrie, en fait.
Exactement, j'ai que des frères, et cette épreuve, ça m'a transformée sur ma façon de voir la vie, ma façon de voir les choses en général, et ça m'a facilité pour forger ma personnalité, et en sortant de cette zone de confort de la petite fille à maman, la petite princesse, etc., ça m'a poussé à vouloir me développer plus rapidement peut-être que des personnes de mon âge.
Donc tu dis me développer, mais finalement au fond, la vraie leçon retenue de cette expérience, une fois que tu as sorti la tête de l'eau, une fois que tu as fait ton deuil, ça a été quoi cette leçon?
Cette leçon, c'est... Justement, ma mère, elle m'a éduquée avec sa famille et notre petite famille pour me voir en mieux qu'elle, entre guillemets. Donc du coup, c'était ça mon challenge. Je me suis dit, c'est comme si elle m'avait laissé un défi, un défi ou un objectif, vraiment une MNA, pour que je sois encore mieux et que je continue à atteindre mes objectifs, à acquérir des compétences, à être performante sur différents aspects sur lesquels je travaille, etc.
Alors, tu dis, il y a eu un autre événement important qui t'a ébranlée, c'est une dépression postpartum après l'arrivée de ton troisième enfant. Et c'est incroyable parce que on a tendance à penser que c'est l'arrivée du premier qui est la plus difficile à gérer, et c'est là où le postpartum peut être le plus compliqué. Mais pour toi, il y a eu une première grossesse, un premier accouchement, une deuxième grossesse, un deuxième accouchement, et une troisième grossesse, un troisième accouchement, et c'est là où ça s'est réveillé.
Exactement.
Les deux premières se sont bien passées?
Ah, ça s'est très bien passé avec mes deux filles, ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun problème. On parlera peut-être plus tard de l'allaitement, mais en tout cas, mes deux premières grossesses et accouchements se sont très bien passées. Le troisième, le petit garçon justement, psychologiquement, je me disais que ça allait être ma dernière grossesse. Donc du coup, peut-être que ça aussi, ça joue. Le fait de se dire, ça y est, je ne revivrai plus encore une autre grossesse, un autre accouchement, etc. Peut-être que ça joue. Après, bien sûr, il y a tout le côté biologique et physiologique hormonal. Mais c'est vrai que quand je me suis installée, que voilà, il y avait l'adaptation avec les trois, là, je me suis sentie totalement désemparée. Et je me suis dit, en fait, cette phase de maternité... grossesse, accouchement avec quasiment 6 ans d'allaitement. Et après, en fait, Hakima, elle est où? Hakima, elle est où? Tout simplement. Je me suis totalement perdue au milieu de
la maternité.
De cette phase maternité.
Ouais.
Même si j'ai développé en même temps, ce qui est drôle, j'ai quand même développé une certaine passion pour le maternage, mais en tant que femme, je me suis perdue, je me sentais perdue, même si j'ai toujours essayé de faire le maximum pour ne pas m'oublier, mais je me suis quand même perdue et je me suis dit, mais en fait, il faut que tu te réveilles, ma petite, il faut absolument que tu fasses quelque chose et que tu crées, tout simplement, et que tu aies ton propre projet à toi. Pour avoir ton propre espace, d'une, et de deux, pour se réaliser, tout simplement.
Mmh. Alors, ce qui m'interpelle dans tout ce que tu dis, c'est que ça va à l'opposé de tout ce que j'ai toujours entendu par rapport au postpartum. Je m'explique. Mais en même temps, j'aimerais savoir si, parce que tu as fait des études en France, aux États-Unis, j'aimerais savoir si tu avais un projet professionnel entre-temps, si tu avais une expérience professionnelle entre-temps, pendant cette phase de maternité. Et ce qui m'interpelle dans tout ce que tu dis, c'est qu'en fait, en général, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai vécu moi-même en tant que femme et mère, c'est qu'un postpartum, on le vit en général avec cette peur de la maternité, pas la peur de perdre la maternité, de ne plus vivre l'expérience. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. Non, moi je l'ai vécu vraiment comme l'inverse de je me suis forgé une identité de mère pendant du coup quasiment 7 ans. Et là, je me disais en fait oui, c'est comme si j'étais dans une entreprise et que du coup voilà, j'ai fait des bébés, etc. Mais avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, je dis ça. Et qu'au final, bah ça y est, en fait, cette mission, elle partait de plus en plus. Comme voilà, le dernier commence à prendre son autonomie, etc. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, oui, non, il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc, malgré tout, pendant cette phase, quand même, j'ai pu me former à la naturopathie, à la médecine prophétique et me spécialiser en allaitement avec différents instituts en France et aux États-Unis. Et c'est vraiment le fait que cette maternité m'a transformée. Donc justement, j'ai quitté la biologie et le management pharmaceutique pour accompagner les femmes autrement avec la naturopathie. Et du coup, ben, c'est pour ça que justement, je voulais te parler de mon livre parce qu'en continuant à écouter les mères, à échanger, à lire beaucoup et à observer, j'ai réalisé qu'il manquait une pièce du puzzle. Et cette pièce du puzzle, c'est le lait maternel. Mm. Ce lait, justement, qui m'a accompagnée pendant presque 6 ans, comme je te disais, avec mes 3 enfants, c'est devenu quasiment une sorte de symbole, une sorte de fil rouge entre toutes les cultures, toutes les femmes que j'ai rencontrées, toutes les histoires. Et j'ai voulu comprendre ce que ce lait représentait vraiment, biologiquement d'abord, spirituellement, socialement, et même politiquement. Et c'est comme ça qu'est né mon livre « Lait de vie ». Donc, c'est un peu l'enfant de toutes ces années d'expérience, de questionnement, de lecture et de rencontre.
Alors, en même temps, cette histoire d'allaitement, tu es d'accord avec moi qu'elle peut aussi un petit peu frustrer celle qui n'allaite pas, pour plusieurs raisons. Le choix de ne pas allaiter existe aussi.
Bien sûr.
Ouais. Est-ce que tu as eu... Oui, vas-y, dis-moi.
Bien sûr. J'ai tenu à donner la voix aussi dans ce que c'est un livre qui reprend beaucoup de témoignages de mères du monde entier, de la France à l'Australie, en passant par la Colombie, le Venezuela et même la Russie. Et justement, j'ai tenu à donner la voix à une mère qui a choisi de ne pas allaiter. Mmh. Pour ne pas faire justement de ce livre une injonction
à l'allaitement.
Du coup, j'ai vraiment tenu à donner la parole à cette mère qui est très heureuse de ne pas allaiter et de garder cette autonomie, cette liberté de ne pas allaiter et qui a créé un lien fort d'amour et d'affection avec sa fille, même avec le biberon.
Oui. Alors justement, est-ce que ton postpartum, pour le prolonger, pour prolonger ce lien avec la maternité, c'est ce qui fait que tu es complètement bifurquée de formation ?
C'est possible. Ce livre, il m'a vraiment transformée parce qu'en cherchant à donner à la parole au lait, j'ai finalement redonné la parole aux femmes. Et ça m'a transformée également en tant que mère, parce que je me sens à la fois plus ancrée dans mon identité de femme, de mère, et plus universelle dans mon message, dans le message que je veux vraiment faire passer, qui est que l'allaitement, ce n'est pas une affaire intime, c'est un enjeu de société, de lien, de transmission, que ce soit l'allaitement maternel, qui reste un trésor, mais aussi l'allaitement par le lait artificiel. Voilà, le principal, c'est que que ce soit l'amour qui soit et l'affection qui soit donnée à l'enfant, c'est ça qui nourrit le plus. Hein,
oui,
après
oui. Alors, pourquoi tu as choisi d'écrire alors qu'on est à l'ère, du digital et du numérique? Tu aurais très bien pu écrire, faire des vidéos, créer des capsules. Pourquoi un livre en 2025?
Oui. J'essaye de faire ça également. Après, voilà, le but, c'est vraiment de proposer au lecteur d'élargir les connaissances et d'avoir. J'ai été la plus exhaustive possible dans mes recherches d'abord et dans mes recherches scientifiques, bibliographiques, et également de proposer un style de littérature du maternage un peu spécifique, puisque dans ce livre, donc il y a ma narration en tant qu'autrice, et aussi la narration du lait. Donc c'est le lait qui parle et qui se raconte, qui se confie, entre guillemets, sur ces différents aspects. Donc on passe de l'allaitement dans la mythologie, puis dans les religions. Ensuite, on passe directement à tout ce qui est les lois, en fait. Il est projeté dans le domaine public, les lois, les réseaux sociaux, la technologie avec tout ce qui est tiers allaitement, etc. Je propose aussi beaucoup comme je t'ai dit, de témoignages de mères du monde entier qui donnent un peu la voix à ce lait. Et justement, j'ai tenu à prendre des profils bien spécifiques, comme par exemple l'allaitement et le handicap, avec une mère qui est aveugle et qui a malgré tout voulu allaiter coûte que coûte son enfant. Donc ça c'était vraiment très émouvant pour moi de l'interviewer. Également, je propose, il y a aussi des avis d'experts. J'ai essayé de choisir les experts les plus les pointures d'experts de l'allaitement dans le marché, sur le marché mondial entre guillemets, pour avoir leurs avis sur l'allaitement avec des questions bien ciblées. Et j'ai essayé le tout aussi de proposer des recettes de lactation. Après, bien sûr, c'est la stimulation qui augmente la lactation, mais de proposer des recettes du monde entier pour voir ce qui se fait. Par exemple, on sait très bien qu'au Maroc, c'est par exemple la rfissa, le hsoued cher. Au Brésil, ça va être plus des croquettes de manioc. Le poulet aussi est utilisé en Chine. Comme nous, le poulet fermier dans le rfissa, en Chine, c'est dans la soupe. En Inde, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de points en commun avec, par exemple, les lentilles. Donc, leur feta, eux, ce sera avec du riz basmati au lieu de trade, des boules de fenugrec.
Helba.
C'est une recette. Helba, exactement, ça s'appelle méthylado, leur boule de fenugrec, donc galactogène. Et voilà, par exemple, en Finlande aussi, voilà, c'est vraiment la croyance, c'est l'oméga 3 qui est galactogène, donc on aura. Le loé keto, donc une soupe de saumon, de la semoule au
blé. Donc en fait, on a toutes les mêmes préoccupations, mais avec, on va dire, des approches différentes. Alors, une autre question, peut-être pour finir, c'est que tu as dit, je propose au lecteur, je ne sais pas si c'est un lapsus ou bien c'était volontaire, parce que tu n'as pas dit lectrice, en fait.
Alors, au lecteur, c'est en général, parce que ce livre, il ne s'adresse pas qu'aux mères, il s'adresse même aux personnes qui n'ont pas d'enfants, aux pères aussi, parce que le rôle du père est très important. Et ça, voilà, je suis bien placée pour en parler, et également aux professionnels de santé. Donc, vraiment, l'objectif, si ça aide une mère à réconforter et à être consolée quand ça ne se passe pas forcément très bien ou quoi, ou à un père de mieux soutenir sa femme, ou un professionnel de santé de mieux accompagner, ben là, l'objectif sera largement atteint pour moi.
Eh bien, Hakima Farah, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Et alors, oui, rapidement. Le livre est déjà disponible ?
Oui. Mon livre donc, il est disponible sur Amazon. Après, on peut me contacter directement aussi sur Instagram où je partage beaucoup de ressources pour les mamans, donc Une Santé en Or. Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. C'est ça la vraie santé en or.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.